Bonjour Didier à côté d'Angers. Pour les déplacements au-delà de 80 km des grandes villes, il faudrait commencer par compenser avec des transports en commun efficaces les déplacements pour accéder à ces grandes villes et rendre l'usage de la voiture pas totalement impossible mais quasiment. La solution de la voiture électrique va nous emmener que vers d'un excès à un autre excès. Je redis, des transports en commun, des transports en commun, des transports en commun. Voilà. À bientôt.
Bonjour, c'est Daniel. J'habite à Bassussari et j'aimerais aller voir mon fils aux États-Unis. Et effectivement, la question se pose. Je ne veux pas prendre l'avion et j'aimerais trouver un moyen plus écologique de me déplacer. J'imagine le bateau et le train jusqu'au bout de l'Irlande au sud-ouest. Et puis après, un trajet vers Montréal ou Boston. Voilà, mais c'est du rêve et je ne sais pas comment faire pour ne pas polluer ou le moins possible. Merci, bonne journée.
Oui, bonjour, c'est Mme de Vincennes. Je suis obligé de réagir avant même la fin de votre émission actuellement en cours. Je suis vraiment consterné par cette persistante diabolisation de l'avion. Moi, je n'ai pas énormément de moyens qui me permettent de faire des voyages à longue distance, mais quand même, par exemple, de dénigrer le Concorde, c'est profondément affligeant. Certes, il a consommé énormément de pétrole d'une façon déraisonnable, mais bon, à l'époque, on n'avait peut-être pas d'autres moyens techniques de faire autrement, mais maintenant, les voyages à longue distance et à haute vitesse peuvent rester dans certaines circonstances des moyens important pour le commerce, enfin, on ne peut pas tout faire par visioconférence. Il y aura toujours des personnes qui seront amenées à se déplacer d'un continent à l'autre. C'est dommage de tout dénigrer comme ça. Bonne continuation, au revoir.
Oui, bonjour, la Terre au Carré, c'est Laurent de Saint-Lô. J'appelle, c'est vrai que je suis assez d'accord avec votre interlocutrice concernant les trains. Ce serait plus sympa de prendre des trains, surtout s'ils sont électriques. Mais avec ma Tesla qui va certes beaucoup trop vite, je vais à Paris pour 9 euros et je peux emmener 3 autres personnes en covoiturage à un prix relativement compétitif pour eux et pour moi. Donc effectivement, je prends principalement les nationales et en moyenne, sur des saisons comme ça, j'arrive à faire 12 kWh au sens, qui est quand même très peu. En tout cas, merci pour votre émission et n'oubliez pas que l'électricité, c'est une chose, mais ne pas rouler et profiter du vélo, c'est bien aussi. Bisous les amis.
Et beaucoup de messages sur le répondeur concernant l'émission d'hier, donc sur les transports longue distance et sur la façon de moins consommer d'énergie fossile, en particulier avec la voiture et l'avion. Et comme Daniel, vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir comment aller voir des proches qui vivent loin tout en essayant de préserver la planète. Un vrai casse-tête en tout cas dans certains cas. Si vous avez vous la solution pour traverser l'Atlantique en émettant le moins de gaz à effet de serre possible, eh bien faites-le nous savoir sur ce répondeur en appelant le 01 56 40 45 45. Ce sera très utile pour Daniel entre autres. C'est une première en France depuis l'été dernier. 3 camions d'une société bourguignonne se déplacent en effet de ferme en ferme pour abattre des bovins directement sur leur lieu de vie sans leur infliger d'interminables temps de transport. Il s'agit d'un abattoir mobile qui fonctionne à rebours, donc des méthodes industrielles. Une idée qui vient de Suède, car de plus en plus de fermiers dans notre pays essaient de se tourner vers des pratiques plus éthiques. Un autre modèle d'abattage est-il pour autant possible dans le monde de l'élevage? Eh bien, c'est la question que nous posons cet après-midi dans un contexte où la question du bien-être animal et de l'élevage industriel sont devenus des sujets cruciaux de débat, en particulier après les vidéochocs de l'association L214 sur les violences pratiquées envers les animaux dans certains abattoirs. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Émilie Janin, éleveuse et fondatrice de l'abattoir mobile Le Bœuf Éthique, et Thomas Leroux, historien de l'environnement, chargé de recherche au CNRS et spécialiste des risques et des pollutions industrielles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Un abattage d'animaux peut-il vraiment devenir éthique? Et quel quelle histoire est-ce que nous avons avec la mise à mort des animaux que nous mangeons? Vous allez répondre à ces questions et à celles des auditeurs qui nous rejoignent donc sur la page de la Terre au Carré, nos réseaux sociaux et puis également vos messages pour vous entendre directement avec l'application France Inter. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
À 14h30, on passe au vert.
Oui, avec une vidange d'un barrage hydroélectrique dans les Hautes-Alpes qui se serait pas très bien passé. Des poissons en aval ont été asphyxiés.
Et puis avant 15h, ce sera le rendez-vous de la campagne électorale. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï. Dossier préparé par Lucie Sarfati et Clément Berman à la technique aujourd'hui.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Passer son temps à élever des animaux avec passion et puis après savoir qu'ils doivent passer pour certains des heures entières de route, c'est problématique. Moi, ça me perturbe de ne pas savoir comment les animaux sont après, une fois descendus du camion et jusqu'au bout. Même si c'est pas drôle, j'aimerais pouvoir accompagner une fois ou l'autre les animaux jusqu'au bout.
La voix de l'éleveuse de cochons Odile Dorchy, extrait d'un reportage de France 3 Normandie. C'était en 2019. Est-ce qu'un nouveau modèle pour l'abattoir est possible dans notre pays? On en parle donc avec vous, Émilie Janin et Thomas Leroux. Émilie Janin, donc, je le disais, vous êtes la fondatrice du Bœuf Éthique, le seul abattoir pour le moment en France, qui a donc commencé en août dernier. Racontez-nous d'abord quel est votre parcours exactement avant d'en arriver justement à la mise au point de cet abattoir.
Alors, je vais pas faire toute ma vie, mais en tout cas pendant 16 ans avant, j'étais éleveuse. J'ai repris la ferme d'élevage de mon père avec mon frère il y a 16 ans à peu près, et on avait une activité de vente directe à la ferme. Et donc on travaillait beaucoup avec un abattoir de proximité. Et comme beaucoup d'éleveurs sur le terrain en France, la problématique de la fermeture des abattoirs de proximité se pose à nous régulièrement quand on fait de la vente directe. Parce que contrairement aux produits végétaux, que ce soit des céréales, des légumes, des fruits, la viande a ce site particulier que pour être mise sur le marché, elle doit passer par un outil qui est agréé par les services de l'État, sans quoi on n'a pas le droit de la mettre en marché. Et donc nous, cette fermeture des abattoirs, c'est un gros stress, non seulement parce que potentiellement, s'ils ferment et qu'ils sont plus loin, on n'a pas accès, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais potentiellement aussi, on n'a pas la possibilité de vendre tout simplement nos produits et nos animaux.
Ça, c'est un phénomène vraiment que vous observez, cette fermeture des abattoirs de proximité là, en
c'est
France.
Très net, ouais. Ouais. Et pourtant, je n'estime pas être une très très ancienne agricultrice. Et donc, en 16 ans, moi, j'en ai vu sur ma région au moins 5 fermées, quoi. Et donc, il y avait vraiment cette crainte et cette boule au ventre de dire, et si celui avec lequel je travaille ferme, comment on fait? Et voilà, il n'y a pas de réponse, quoi.
Donc, vous avez voulu anticiper finalement cette fermeture. Vous êtes toujours éleveuse aujourd'hui. Vous avez combien d'animaux exactement?
On a 80 vaches allaitantes. Ça veut dire qu'il y a à peu près 200 bovins à peu près sur la ferme tout le temps, quoi.
Et vous êtes en bio?
On est en bio, ouais.
Vous travaillez avec votre frère. Mm-hmm. Et alors cette idée, vous l'avez eue où, comment, dans quelles circonstances?
Alors cette idée, on l'a pas eue. Elle est pas venue une nuit en rêvant comme ça. C'est juste qu'on m'a parlé d'un abattoir mobile qui existait en Suède. C'était Franck Ribière, qui est un réalisateur de films, qui avait fait un film qui s'appelle Steak Révolution, qui nous suivait pour un autre projet chez nous, par rapport à notre façon d'élever les animaux, justement, qui viennent valoriser. Nous, on a beaucoup de prairies naturelles et on n'a rien inventé de mieux qu'un herbivore, donc des vaches, pour valoriser les prairies naturelles. Et lui, il m'a parlé de cet abattoir mobile qui existait en Suède. Mais je ne voyais pas du tout comment on pouvait faire ça en respectant les normes sanitaires. Et donc, il m'a emmené. Et quand on est revenu, enfin, c'était tellement subjugant que j'ai dit, en fait, c'est impossible que je continue à élever des animaux sans essayer de le faire en France. Et voilà comment c'est parti.
Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit exactement, ce qu'est un abattoir mobile, puisque je le disais, vous l'avez mis en place. Thomas Leroux, avant d'aborder cette question, c'est intéressant justement de convoquer un peu l'histoire, hein, pour comprendre comment ont évolué d'abord nos pratiques, notre perception de la mise à mort des bêtes. À quel moment apparaissent les premiers abattoirs en France d'abord?
Alors, en fait, des abattoirs, il en existe depuis toujours, en fait, à partir du moment où on consomme de la viande. Mais pendant très longtemps, cet abattage était dans les mains des bouchers qui vendaient la viande qu'ils abattaient eux-mêmes. Donc, ils faisaient venir le bétail à pied, puisque, évidemment, les conditions de transport n'étaient pas celles d'aujourd'hui.
Dans la boucherie, donc, directement?
Directement dans la boucherie. Et en fait, derrière l'étal du boucher, il y avait bien souvent ce qu'on appelait une bouverie, c'est-à-dire une sorte d'étable où les bêtes restaient avant d'être abattues, et puis un échaudoir qui était la pièce d'abattage proprement dite, et puis ensuite toute une série d'équipements logistiques pour justement évacuer tous les restes en fait de la bête qui a été mise à mort.
Mais ça, on parle de quelle époque à peu près quand même, où ça peut-être commencé à s'organiser, on va dire alors.
Alors, bah, pendant très longtemps, c'est la corporation des bouchers ou les corporations de bouchers qui ont en main cette industrie de l'abattage, enfin cette industrie ou cet artisanat de l'abattage.
Mmh. Quel siècle ?
Ben 18e, enfin depuis le Moyen Âge en fait. Mmh. Hein, et ça, d'ailleurs, ça perdure très longtemps parce que même en Grande-Bretagne, les bouchers jusqu'à la fin du 19e siècle abattent les propres bêtes dont ils vendent la viande en fait. Hein. Alors en France, les premiers abattoirs publics, on va dire, commencent à apparaître au 18e siècle dans quelques villes telles que Moulins, Dijon, Laval, Tours.
Donc on a déjà une évolution là, dans
une petite évolution, oui, ouais. Mais ce sont des petits abattoirs. Et la grande mutation en fait qui apparaît, c'est à Paris, puisqu'à partir de 1810, il est décidé que 10 abattoirs publics vont être construits, abattoirs dans lesquels les bouchers vont devoir se rendre pour abattre les bêtes, en fait. Donc les bêtes viennent toujours à pied, hein, des plaines environnantes, de la campagne, mais au lieu d'aller directement dans les étaux de bouchers ou les étals de bouchers, les bêtes vont se rendre dans les abattoirs. Faut savoir que en 1800, hein, pour situer un petit peu le curseur, il y a environ 300 bouchers qui abattent environ 500 000 bêtes par an.
Oui, c'est beaucoup.
Donc moutons, enfin 80% de moutons, ouais. Et 20% de bovins.
Et la Villette fait partie de ces lieux dont vous parlez, c'est... justement.
Non, parce que les premiers abattoirs, la Villette c'est encore un village de banlieue en 1800 en fait, et les premiers abattoirs, les 5 premiers abattoirs urbains qui ont été construits, ils ont été construits d'ailleurs dans la ville, hein, pas hors de la ville, mais dans la ville parce que il y avait aussi cette question de la fiscalité, la question de l'octroi, et donc pour les autorités locales, c'était une source de revenus, en fait. Chaque bête qui rentrait dans la ville était taxée, en fait. Et donc, les 5 premiers abattoirs sont dans la ville. Ils sont au Faubourg du Roule, donc pas loin des Champs-Élysées, à Montmartre, Ménilmontant, Popincourt, Villejuif, en fait. Villejuif, c'est le boulevard de l'hôpital. C'est anciennement le lieu dit Villejuif.
Oui.
Et puis à Grenelle, dans la ville.
Et à quel moment on commence vraiment à délocaliser, pour le coup, les abattoirs et à les sortir du centre-ville?
Alors, la grande mutation, c'est la question du transport, toujours. Donc là, on revient à la question de l'abattoir mobile. Parce que jusqu'au milieu du 19e siècle, le bétail rentre dans la ville et rentre dans les échaudoirs, en fait, ou ce qu'on appelait les tueries, puis ensuite, donc, les abattoirs à pied. Sur pattes. Et ensuite, avec l'organisation des chemins de fer, ça change radicalement en fait la façon de faire transporter les bêtes, parce qu'on peut les faire venir de beaucoup plus loin. On les fait venir en wagon, et de fait, on imagine de concentrer en fait les lieux d'abattage au niveau des terminaux ferroviaires. D'où la Villette, en fait, puisque la Villette, ça a été un nœud ferroviaire dans Paris après les années 1860. Et la Villette, le grand abattoir de la Villette, ouvre en 1867.
Mais c'est plutôt pour des raisons économiques ou pour des raisons sanitaires, tout ça, tous ces regroupements?
Tout se mêle en réalité. La raison invoquée par les pouvoirs publics, c'est une raison d'hygiène publique. Jusqu'alors, donc, il y avait la question. Alors, il y a la question, premièrement, de l'évacuation de nos vues de l'abattage, puisque comme l'abattage était réalisé dans la ville, y a des passants qui le voyaient, ça faisait partie de la vie quotidienne. Donc, il y a une espèce de sensation vis-à-vis de la mort qui semble devenir de plus en plus intolérable. Il y a aussi la question de l'hygiène publique, puisque abattre une bête, c'est beaucoup de sang, sont toutes les dépouilles, les peaux, les cornes, les pattes, les viscères, les tripes, etc. Et donc pour des raisons d'hygiène publique, en tout cas, c'est le discours qui est invoqué. L'abattage se réalise de plus en plus dans des abattoirs où justement même des murs très hauts sont construits, c'est clôturé un peu comme une prison.
La visibilité commence vraiment. Hein,
exactement, ouais. C'est la visibilisation de la mort qui est invoquée. En réalité, il y a aussi des arguments économiques qui fait que ça peut permettre de gagner des coûts d'abattage, en fait, de les concentrer dans un même lieu. Et il y a aussi surtout la gestion des déchets qui va être reprise en main par des entrepreneurs. Et là, on rentre dans le système de l'économie capitaliste du déchet, puisque avant, c'était les bouchers qui traitaient directement avec les tanneurs, avec les fabricants d'huile d'éclairage, etc., les fabricants de colle. Et là, à partir du moment où on trouve les abattoirs, cette gestion des déchets va être prise en main par des entrepreneurs qui vont créer des entreprises, en fait, pour évacuer le sang, les peaux, et les revendre, en fait, pour valoriser ces produits.
Et après, développer toute une industrialisation, finalement, des abattoirs, avec aujourd'hui, pour revenir sur aujourd'hui, des grands groupes, finalement, c'est ça qui possède ces abattoirs, Émilie Janin?
Oui, oui, il y a 80% des volumes qui sont abattus en France qui sont détenus par quatre grands groupes industriels, voilà, qui détiennent effectivement la majorité des abattoirs, et en tout cas ceux qui font les plus gros tonnages. Ouais.
Et ouais. Pourquoi vous parliez tout à l'heure des abattoirs, notamment de proximité, qui ferment de plus en plus? C'est ce que vous disiez. Pourquoi? Parce que justement il y a cette mainmise des grands groupes et qu'ils n'arrivent plus à survivre. C'est quoi le
Alors il y a ça, et ça a été organisé, c'est-à-dire que quand la France est rentrée dans l'Europe en 57, effectivement, auparavant, l'abattage était un service public pour des questions d'hygiène et de pollution aussi, parce qu'il y avait toutes ces gestions de déchets, etc. Et en rentrant dans l'Europe, elle a fait le choix, en fait, de ne prendre que la réglementation européenne pour régir ces lieux où on donne la mort aux animaux. Et il y a d'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple, où ils ont pris la réglementation européenne et ils ont gardé leur réglementation des Landers, ce qui fait que eux, ils ont encore 3500 abattoirs.
C'est ça. Et en France, combien
on en a? Et en France, on en a 237.
Ouais. C'est ça. Hein.
Ouais, ça a été
moins de 250. Ouais.
Et en fait, il y a eu donc cette perte à ce moment-là de ce statut. C'est plus un service public, donc c'est plus financé par l'État, et en même temps plus de mise aux normes. Donc forcément, il y en a plein qui ont fait faillite. Et après, s'organise le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y en a un qui fait faillite, ça renforce les positions de ceux qui sont encore en place.
Tout ça, évidemment, avec une réglementation très particulière. On pourra en discuter dans un instant, et puis voir quelle est la réalité des abattoirs aujourd'hui et quelles sont les pratiques qui pourraient bien sûr émerger. Vous allez répondre aux messages qui arrivent sur le site de la Terre au Carré, franceinter.fr, pour nous retrouver. Power, Cat Power à l'instant.
La Terre au carré sur France Inter.
Là, on montre clairement au travers de ces images que il n'y a rien qui est sous contrôle. C'est montrer aussi tout le mensonge qui est autour de la mise à mort des animaux, quoi. Non, ça ne se passe pas tranquillement, les animaux n'arrivent pas en file indienne pour se faire tuer. Calmement, on va les endormir. On utilise le mot étourdir, qui est un mot doux, au lieu de dire, non, on leur envoie des décharges électriques, on leur explose le crâne, on les gaze. Tous ces mots-là sont pas employés. On essaye de nous faire croire que tout se passe le mieux possible, dans le meilleur des mondes, que tout est mis en œuvre pour que ça se passe le mieux possible pour les animaux. C'est pas vrai.
La voix de Brigitte Gauthier de l'association L214, c'était en 2016 au JT de France 2. Alors justement, est-ce qu'on préfère évoluer les pratiques autour de l'abattage des animaux? On en parle avec vous, Thomas Leroux, historien, et Émilie Janin, éleveuse. Est-ce que, d'abord, Thomas Leroux, les abattoirs se trouvent clairement aujourd'hui à un tournant de leur histoire?
C'est compliqué à dire, évidemment.
Vous qui avez le regard sur tout ce qui s'est passé depuis longtemps.
Des tournants, il y en a eu plusieurs en réalité, donc on est sans arrêt dans des évolutions et des bifurcations qui sont possibles. Moi, la réalité contemporaine, je la connais pas forcément très très bien. Donc
mais vous l'observez quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble émerger là-dedans dans la façon dont la société s'empare de ce sujet?
Oui, ce sont des thèmes qui reviennent de façon récurrente en réalité, parce que la question de la mise à mort ou de la souffrance animale, elle existe depuis très longtemps. Il y a la question aussi de la qualité de la viande, en fait, que le consommateur réclame. Mm-hmm. Et on note notamment sur la question de l'éloignement des abattoirs dont on a parlé et leur industrialisation, qu'en fait, il y avait peut-être une opposition des bouchers parce qu'ils perdaient leur pouvoir sur leur métier. Mais les consommateurs également étaient relativement contre. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir manger la viande d'un animal qu'ils avaient vu vivant juste avant. Et ils voulaient être sûrs que, en fait, la viande qu'ils mangeaient était fraîche et qu'elle provenait aussi d'un animal qui avait été abattu par un boucher qu'ils connaissaient. Donc il y avait un système d'interconnaissance qui garantissait, en fait,
la traçabilité,
une forme de traçabilité immédiate et quotidienne, en fait. Et donc là, l'évolution contemporaine, elle est globalement à l'encontre de celle-ci, en fait, puisque même si il y a quelques alternatives d'abattage comme celle que développe Émilie, au plus près de l'éleveur par exemple, etc., globalement on est toujours dans un système où il y a toujours plus de concentration des abattoirs dans le monde.
Avec des animaux qui viennent de très loin, hein, qui font parfois des centaines, voire des milliers de kilomètres. Émilie Janin, comment travaille un éleveur avec l'abattoir? Parce que tout est réglementé. Explique-nous en quelques mots qu'on comprenne bien. L'animal doit être abattu avec un agrément particulier. Comment ça marche?
Alors nous, on a un agrément exactement comme n'importe quel abattoir en France. En fait, on est soumis à la même réglementation. Et donc nous concrètement, les éleveurs avec qui on travaille, on a contractualisé avec eux. Ça nous permet d'avoir un planning d'intervention.
Vous parlez pour votre abattoir
mobile.
Pour
notre abattoir,
mais un éleveur en général, avant même d'aller sur votre terrain.
En fait, il choisit pas forcément. Dans 80% des cas, en fait, il choisit pas où ira son animal, parce que dans 80% des cas, il va vendre dans ce qu'on appelle une filière longue, c'est-à-dire qu'il va aller vendre à un maquignon ou une coopérative qui elle-même aura vendu la carcasse à un chevillard. C'est celui qui va travailler les carcasses, les dégrossir, les envoyer potentiellement à Rungis, etc. Et puis ensuite, ça sera envoyé dans des abattoirs. Mais les éleveurs, la majorité du temps, découvrent l'abattoir dans lequel leurs animaux sont abattus sur le ticket de pesée qui leur arrive avec le règlement, mais des semaines après.
Ils le décident pas.
Et est-ce que tous les abattoirs, si on reste sur la France, est-ce que tous les abattoirs sont censés respecter exactement les mêmes méthodes, le même fonctionnement, les mêmes normes et les mêmes règles?
Alors oui, on est tous soumis, ils sont tous soumis à la même réglementation. Mais par exemple,
que ce soit, abattoir de proximité ou même abattoir plus éloigné.
Oui. On est tous soumis à la même réglementation. Ce qui va différencier, et cette réglementation, elle nous oblige à des résultats, mais pas à des moyens. Ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que la réglementation européenne nous oblige à avoir à atteindre un objectif de qualité de viande, microbiologique, etc. Et pas forcément à des moyens. C'est pour ça que nous, on a réussi à le faire avec du mobile aussi.
Mais pardon, je parlais au niveau de la méthode, en fait. Est-ce que, en gros, si je prends une vache qui rentre dans un abattoir, ou que ce soit en France, elle va être tuée exactement de la même façon, dans les mêmes délais, avec
Alors, elle va être tuée avec, effectivement, le même outils, mais c'est pas de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, si on compare, d'ailleurs, il y a une expérimentation en cours là d'évaluation pour évaluer la différence entre les abattoirs mobiles et les abattoirs classiques. Et en fait, nous, la différence, elle se passe dès la sortie de l'animal de son parc ou de son pré. Il va se passer 1 minute 30 entre le moment où elle sort du pré et le moment où elle va être abattue. Et puis dans le schéma classique, en fait, ça, on ne sait pas combien de temps ça dure concrètement.
C'est quoi la distance moyenne parcourue par un animal pour aller à l'abattoir? Je crois que ça a été évalué, je crois que c'est 400 km,
C'est minimum ça. Ce qui est long quand c'est en camion, parce que les camions roulent à 80 km/h. Ouais.
Pardon, juste une précision, on parlait de 250 abattoirs en France aujourd'hui, c'est pas pour tous les animaux.
Non, ça c'est pour les ongulés.
Uniquement.
Domestiques,
On oublie toute la volaille.
La volaille n'est pas dedans, exactement.
C'est-à-dire que vous, éleveur, je rebondis sur ce que vous disiez, avant que vous ne fassiez évidemment votre abattoir mobile, mais vous arrivez avec votre camion, avec vos vaches, vous les laissez accès, entre guillemets, à l'entrée de l'abattoir. Mmh. Et après, en fait, vous ne savez plus ce qui se passe.
Bah, en fait, les seuls éleveurs qui savent comment ça se passe, c'est ceux qui font de la vente directe ou qui vendent à un boucher. Mais ça, ça représente, voilà, ce que je vous disais, à peu près 20% du volume qui est abattu et travaillé en France, quoi. C'est pas la majorité. La majorité, c'est les filières longues qui nous échappent et qui partent dans le conventionnel, quoi.
On prendra le temps dans la seconde partie de l'émission de décrire exactement comment se passe justement la mise à mort avec l'abattoir mobile que vous avez développé donc depuis le mois d'août, Émilie Janin. Juste un mot encore sur L214 qu'on entendait tout à l'heure, avec évidemment ces vidéos qui ont marqué beaucoup de gens puisqu'ils ont fait pénétrer les caméras à l'intérieur des abattoirs. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a complètement changé la perception qu'on peut avoir justement avec l'acte de mise à mort ?
En tout cas, oui, ça a le mérite de mettre ce sujet-là, on va dire,
sur
la table.
Je vous vois dubitatif quand même.
Bah, c'est-à-dire que je pense que, bah ouais, je pense pas que c'est changer les pratiques en tant que telles. Au pire, ça contribue à faire fermer des abattoirs, mais ça n'a pas changé forcément les pratiques dedans. Le seul changement qu'il y a pu avoir, bon bah, c'est nous qui avons mis en place un abattoir mobile, mais sinon, ça se passe grosso modo de la même manière qu'avant, quoi.
Mais c'était important de montrer, ces images, non ?
Peut-être qu'ils font plus attention quand même dans les directions de ces abattoirs. Peut-être qu'ils se disent attention, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, sinon on va se faire choper, quoi.
Mais en fait, le problème, ce n'est pas tant de l'attention, c'est le problème des cadences. Quand on fait 300 bovins dans la journée ou 500 bovins dans la journée et que l'opérateur il a 30 secondes ou 50 secondes pour faire un geste et qu'en fait, on est dans une usine, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de chaîne. Mais quand on parle de la chaîne d'abattage, c'est comme dans une usine de voiture. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui est cadencée et qui avance toute seule, quoi. Et donc, l'ouvrier est de ce fait mis dans ce schéma-là, et c'est ça qui est maltraitant, tant pour l'ouvrier que les animaux.
Thomas Leroux, on parlait de l'invisibilité tout à l'heure des abattoirs. Précisément, l'apport de L214, ça a été de visibiliser les choses, de les montrer vraiment.
Tout à fait, parce qu'en fait, dans les abattoirs, sinon on ne sait pas ce qui se passe en réalité. On peut le trouver à travers des archives, à travers la littérature, mais dans le temps présent, en fait, c'est très, très, très compliqué de rentrer dans un abattoir. Sur la mise à mort et on parlait des cadences. Finalement, c'est intéressant parce que la question de l'abattoir renvoie aussi à la question de l'industrialisation de façon beaucoup plus large et même des processus comme le travail à la chaîne ou la taylorisation du travail au tournant des années 1900. En fait, elle a été l'idée vient des abattoirs et en particulier de l'abattoir de Chicago, c'est-à-dire le premier grand abattoir avec des milliers de bêtes tuées tous les jours qui étaient soumises à des cadences et un travail à la chaîne, et les ouvriers, c'était plus des bouchers en fait, c'était des ouvriers qui tuaient les animaux mais qui étaient soumis au rythme de la machinerie. Et le travail à la chaîne en fait provient justement des abattoirs et non pas de l'industrie textile ou de l'industrie métallurgique par exemple.
En février 2020, L214 révélait donc des images de mise à mort de veaux tournées dans l'abattoir Sobval de Dordogne. Écoutons Sébastien Arsac, le porte-parole de l'association, commenter ces images.
Ici, vous voyez, il n'y a aucun contrôle. Il est retourné, il continue encore à respirer, alors que normalement, il devrait être laissé encore immobilisé. Donc là, on voit très bien, c'est incontestable. La respiration, elle est là. Et donc là, il a une patte coincée, donc ça montre aussi que l'immobilisation n'était pas complète. Et il est relâché, la porte s'ouvre, et il est envoyé sur la chaîne, encore conscient et encore sensible. Ça veut dire que c'est des animaux qui ont la gorge tranchée, et qui se voit mourir en fait, c'est une agonie qui est prolongée. Le fait de le saigner debout et de le relâcher rapidement, ça fait qu'on peut augmenter la cadence. Il faut savoir qu'il y a 90 veaux qui sont tués à l'heure, donc ça fait plus d'un à la minute. Donc il faut que ça aille vite.
Voilà, suite à la plainte de L214, le parquet a ouvert une enquête. La procédure a été classée sans suite. L214 a donc décidé de poursuivre directement l'abattoir en justice. Et une audience a eu lieu le 4 mars dernier au tribunal judiciaire de Périgueux. L'association espère une condamnation ferme et dissuasive. Un commentaire, Émilie Janin ?
Je sais pas comment vous dire.
C'est compliqué pour vous de discuter de L214 parce qu'ils vous attaquent aussi beaucoup.
Je suis vraiment visée par eux. Ils nous détestent et ils nous détestent parce qu'ils ont tendance à voir le monde en mode on-off ou noir-blanc. Et donc nous, quand on essaie de leur dire on est éleveur, on essaie de bien faire, de valoriser des terres que seuls les animaux savent valoriser et de bien élever nos animaux et aussi de bien les abattre, ça leur est complètement insupportable.
Il y a le côté vegan et le côté carnivore.
Je suis même pas carnivore, je me définis pas tant que comme ça. Je suis juste à voilà. On est ce qu'on est aussi parce qu'on a mangé de la viande, quoi. On a évolué comme ça parce qu'on est aussi des mangeurs omnivores. Et donc à un moment donné, oui, certes leurs vidéos, elles nous ont choqués, nous éleveurs, on les a trouvées très choquantes. Mais j'ai envie de dire, et alors, qu'est-ce que ça a permis de faire à part faire fermer plusieurs abattoirs? Et la conséquence de ces fermetures d'abattoirs, c'est que les animaux font encore plus de kilomètres et sont encore plus soumis à des cadences parce que dans les abattoirs qui restent, on fait encore plus d'animaux.
Ah, donc vous dites c'est encore pire finalement. Le fait d'avoir révélé ces images, c'est encore pire.
Ben, en tout cas, pour l'instant, à moins de nous soutenir d'autres alternatives comme on porte, pour l'instant, c'est les conséquences directes, quoi. C'est les fermetures d'abattoirs.
Bon, en tout cas, vous ne mettrez pas Frédéric Gad d'accord avec vous puisqu'il nous écrit sur franceinter.fr la solution à l'abattage industriel ou autre, c'est manger vegan.
Allez, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est aussi une question. Est-ce que parallèlement à cet abattoir mobile, vous préconisez quand même de manger moins de viande, vous qui aimez la qualité visiblement? Allez, d'autres messages pour vous, ils arrivent nombreux et on se retrouve dans quelques minutes.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, Camille, on passe au vert.
Et je vous emmène dans les Hautes-Alpes, dans les paysages magnifiques des montagnes des environs de Briançon, où se situe un barrage hydraulique, celui du Pont Baldi, de Pont Baldi. Ouvrage impressionnant dont le bleu turquoise de l'eau retenue fait son petit effet sur les photos, hein, au milieu de la roche et de la végétation toute verte. Barrage qu'il faut vidanger tous les 10 ans par mesure de sécurité, c'est-à-dire expulser les boues et les sédiments accumulés pendant tout ce temps. L'opération a eu lieu la première semaine d'avril. Et voici ce que David Doussande et ses camarades de la Fédération de la pêche du département ont vu.
Dès le premier jour de la vidange, des départs massifs de matière en suspension et de sédiments étaient visibles à l'aval du barrage. Donc on a assisté à un torrent de boue, un flux, la Durance était marron sur plusieurs kilomètres.
Alors la Durance, c'est la rivière principale des Hautes-Alpes qui se jette dans le Rhône, très très basse parce qu'il n'y a pas presque pas plu ces derniers mois et la neige plus haut n'a pas encore fondu. Résultat, d'après cette fois Éléonore Matuzac de la Société Alpine de Protection de la Nature.
Comme le débit de la Durance en aval était trop peu élevé, et bien ces sédiments, en fait, ils étaient trop importants et pas assez dilués dans l'eau, ce qui a fait que ça asphyxiait tous les poissons.
Ensevelit quasiment les poissons. Illustration avec David Doussande.
On est allé sur place et on a vu les poissons avec leurs ouïes complètement colmatées par ces sédiments. Les plus gros poissons, on a pu les voir puisqu'ils sont morts échoués sur les berges. Mais il faut aussi imaginer les, je dis bien le chiffre, on ne se trompe pas, les dizaines de milliers de poissons de l'année. Vous savez, les poissons qui sont nés cette année dans la rivière, de toute petite taille, qui eux sont morts, asphyxiés et qui ont disparu dans les flots lors de cette vidange.
Une catastrophe écologique, disent-ils, qui touche des truites sauvages, les fario méditerranéennes, tout l'écosystème du coin. Hervé Gazdon est président de la Société Alpine de Protection de la Nature.
La Durance, aujourd'hui encore, elle n'est pas encore revenue à son état normal. Il y a 15 jours, c'est pas du lisier, parce qu'il n'y avait pas l'odeur du lisier, mais elle était vraiment marron, la flotte. Hein. Là, elle est grise. Hein. Moi, j'y suis passé ce matin. Elle n'a pas sa couleur bleue habituelle. Toutes les personnes qui sont ici sont effarées de voir la Durance dans l'état dans lequel elle est. Hein. Les élus, faut voir comment les élus ils ont réagi hein, de toutes les communes. Hein. Personne ne pensait que ça pouvait encore arriver comme ça.
Son association liée à France Nature Environnement et la Fédération de la pêche des Hautes-Alpes ont porté plainte et ils précisent bien une chose.
Personne ne conteste le fait qu'il y ait une vidange du barrage du pont Baldi pour le problème de sécurité. C'est un grand barrage de béton, un barrage voûte qui fait 40-50 mètres de haut au-dessus de la vallée. Donc c'est normal qu'il y ait une visite décennale pour vérifier l'état de stabilité du barrage. C'est pas là-dessus qu'il y a une contestation. C'est pas sur le but. C'est sur la façon de faire.
Les conditions pour faire cette vidange, déjà repoussée d'un an à cause du Covid, n'ont pas été respectées d'après les associations. La Fédération de la pêche avait demandé d'ailleurs à ce qu'elle soit encore reportée au mois de mai au moins, parce que donc, vu le niveau de l'eau en aval, la dissolution des sédiments ne pourrait pas bien se faire.
Nous, on a été vraiment surpris. On a dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas réaliser cette opération alors qu'il n'y a pas d'eau dans la Durance et que l'on compte sur la capacité de dilution de la Durance pour diluer ces matières en suspension.
Et David Doussande ajoute que des normes n'ont pas été respectées non plus.
Des quantités de matière en suspension qui, au départ, ne devaient pas dépasser 10 grammes par litre, on s'est retrouvé pendant plusieurs heures sur la Durance avec des quantités de sédiments dépassant les 200 grammes par litre. Imaginez dans une bouteille d'eau de 1 litre, 200 grammes de sédiments, c'est énorme.
Une enquête a été ouverte par le procureur de la République puisque le Code de l'environnement stipule bien, je cite, que le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux directement ou indirectement des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nuit à sa nutrition et à sa reproduction ou sa valeur alimentaire constitue une infraction pénale. Dans le viseur, l'État, la préfecture, d'une part, qui a donné le feu vert pour la vidange. Mais voilà ce que les services du préfet des Hautes-Alpes m'ont envoyé hier soir.
L'autorité administrative ainsi que les services placés sous son autorité ou sa tutelle ne sont plus habilités à communiquer ou commenter une enquête en cours.
La préfecture avait quand même mentionné il y a quelques jours dans un communiqué avoir demandé au concessionnaire du barrage d'adapter, voire d'arrêter les manœuvres en cas de dépassement des seuils de matière en suspension. Et ce concessionnaire, justement, deuxième cible, Énergie Développement Service du Briançonnais, m'assure ce matin par mail, Mathieu, que
ces procédures ont été suivies par nos équipes conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral.
Et ajoute,
bien entendu, la préservation du milieu aquatique de la Durance est une exigence inscrite dans le cadre de notre opération et nous avons pris, y compris en amont de la vidange, plusieurs mesures pour y répondre, avec notamment le déplacement de 1700 truites vers des lieux préservés. Nous tenons également à rappeler que notre priorité absolue lors de cette opération est la sûreté de l'ouvrage et la sécurité des biens et des personnes en aval du barrage.
Des analyses d'impact sont en cours. 20 km, c'est-à-dire deux tiers de la partie sauvage de la Durance, auraient été touchés par cette pollution. Parce que même si les sédiments n'en sont pas à la base une pollution, le résultat est le même à l'arrivée. C'est ce que m'a expliqué Bernard Patin, autre membre de la Société Alpine de Protection de la Nature.
Lorsque vous stockez derrière un barrage plus de 10 ans de dépôts argileux, sableux, et que brusquement vous ouvrez les vannes d'un barrage, ça devient une pollution. Quand vous mangez un morceau de chocolat de temps en temps, même tous les jours, c'est pas grave, mais si vous en mangez l'équivalent de 10 ans en une seule journée, vous n'allez pas tenir le coup.
Voilà, donc si les poissons asphyxiés ne vous avaient pas suffi, c'est parlant aussi. Les associations espèrent au moins que leur action servira de leçon pour les autres vidanges, puisqu'il y a en France, je le rappelle, plus de 2000 centrales hydroélectriques.
Merci Camille Cronier, on pourrait écouter votre chronique sur franceinter.fr.
Émilie Janin, ça vous fait réagir ce genre d'opération et d'asphyxie en l'occurrence des poissons?
Oui, forcément, parce que enfin, dans l'activité agricole en tout cas, on est soumis à de nombreux contrôles et déclarations, etc. pour justement préserver les ressources en eau. D'activité d'abattage que je dirige depuis quelques mois, c'est pareil. Et donc du coup, je suis assez effarée de voir que de telles choses puissent encore avoir lieu en France. Ouais.
Allez, dans un instant, vous nous décrivez dans les détails votre abattoir mobile. C'est une première justement et ça existe depuis le mois d'août dernier.
Ton cou, c'est comme une vipère qui qui sort de son trou, ses luttes, ses galères, ses tous ses écrous, c'est pas moi qui sais.
Autour de ton cou, Stéphane Escher sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
La question des abattoirs cet après-midi avec Émilie Janin, éleveuse et donc à l'origine du premier abattoir mobile de France, et Thomas Leroux, historien. Puisqu'on entendait Stéphane Escher, il y a une question sur la Suisse, hein, je crois, Camille.
Oui, on a Jean-Yves qui nous écrit « Certes, les abattoirs mobiles sont une vraie amélioration, mais reste le stress du couloir de la mort. Nos amis suisses ont beaucoup progressé sur ce sujet et l'abattage au fusil d'une bête paissant paisiblement est une option qui prend forme chez nos voisins. Zéro stress et qualité de viande optimale », nous écrit Jean-Yves. C'est vrai ça ? Il y a des éleveurs qui vont shooter leur...
Oui, il y a quelques cantons en Suisse qui ont autorisé quelques éleveurs à pouvoir le réaliser. La condition sine qua non pour pouvoir le faire, c'est d'avoir un abattoir qui accepte les carcasses pour faire la saignée et toutes les opérations à proximité, ce qui n'est pas le cas en France. Et en tout cas, les autorités françaises à qui on a présenté cela il y a déjà quelques années sont catégoriques et refusent ce genre
de pratique. Mais ça stresse pas le reste du troupeau, enfin...
Sur les vidéos que j'ai vues, effectivement, on voit que le reste du troupeau s'en rend pas compte, quoi. Mais...
Émilie Janin, décrivez-nous votre abattoir mobile. On va passer sur toutes les péripéties. C'était très bon, hein, pour vous. Ça a été plus de 5 années, je crois. Vous avez réuni 1,5 million pour devenir vraiment un abattoir opérationnel. Ça ressemble à quoi alors cet abattoir mobile ?
C'est trois gros camions, des semi-remorques en fait. Il y en a un qui est l'abattoir en tant que tel. Donc quand il va s'installer pour travailler, il va se déployer en hauteur pour avoir à peu près 5,50 m de suspension au plafond, s'élargir un petit peu parce que quand on roule sur nos routes, on doit avoir 2,60 m de large, mais pour travailler à l'intérieur, c'est un peu petit. Donc on s'écarte un peu. On a une remorque qui nous permet de faire d'avoir tout ce qui est vestiaire, sanitaire, douche, etc., bureau pour les services sanitaires, comme dans un abattoir classique.
Donc vous arrivez avec tout ça chez le fermier,
voilà,
directement.
Et le dernier camion, c'est le camion frigo qui nous permet de ressuyer les carcasses, c'est-à-dire les faire tomber la température de ces carcasses à cœur en dessous de 7 degrés en 24 heures.
Et l'abattoir en lui-même, donc vous parliez tout à l'heure du côté travail à la chaîne des gros abattoirs, ça se passe comment ?
Et bien c'est dans cet ensemble en fait, de camions qui se disposent les uns à côté des autres, ça fait l'abattoir en tant que tel. Et donc en fait, les animaux rentrent dedans quand on est prêt, c'est-à-dire que quand on arrive sur une ferme, donc ce matin les gars étaient sur une ferme en Saône-et-Loire, donc ils installent tous les camions, ils sont 5 opérateurs sur l'abattoir. Ils installent tout leur matériel, ils désinfectent un petit coup avant de démarrer, pour être vraiment... on travaille sur un espace très très clos, donc il faut vraiment être irréprochable niveau sanitaire et qualité, etc. Et puis quand ils sont prêts, ils vont donner le go à l'opérateur qui est dehors et à l'éleveur qui va aller chercher l'animal et qui va l'amener. Et en fait, voilà, ça va très vite. Après, il va être assommé, il y a toutes les opérations qui se passent à l'intérieur.
On va écouter Sophie, une éleveuse de Bourgogne chez qui vous êtes allée, justement. C'était il y a quelques jours avec ses 120 vaches charolaises.
Elles mangent, elles ruminent, on va voir après, je vais les détacher. Une fois qu'elles auront mangé, elles vont se coucher, elles vont ruminer, elles vont se mettre à la barrière, elles vont nous regarder. Elles n'ont pas peur du tout. On sait très bien que les abattoirs à la chaîne, c'est pas comme ça, c'est pas aussi calme. On leur laisse pas le choix de faire demi-tour si elles veulent pas y aller, alors qu'ici on leur laisse le choix.
Pour les opérateurs comme David, les conditions de travail sont évidemment préférables aux cadences industrielles habituelles.
Ici on est vraiment valorisé en tant qu'homme que dans les abattoirs traditionnels. On est plutôt des machines en fait. On n'a pas le choix, quoi. Faut être au travail, on n'a pas le droit d'avoir mal, on n'a pas le droit d'être pas bien. Et puis ici on a vraiment le temps de faire les choses calmement, paisiblement. On est en relationnel directement avec les éleveurs. On est chez eux et ça change tout.
Voilà, la voix d'un de vos opérateurs, Émilie Janin. Alors, on entendait justement Sophie, extrait de ce reportage d'Arte diffusé là en janvier, dire on laisse le choix aux bêtes de faire demi-tour. Comment il faut interpréter cette phrase exactement ?
Ça nous est déjà arrivé d'aller sur une ferme et que, parce que voilà, on est dans l'innovation quand même et ça peut arriver une fois que les animaux stressent, etc. Nous, on dit aux éleveurs, parce qu'on en a un certain nombre à abattre quand on se déplace, si ça se passe mal, effectivement, laisse-la, on va la poser, on va en prendre une autre et puis voilà, parce que ça sert à rien. Enfin, moi, j'ai
C'est-à-dire qu'on va l'épargner vraiment ou on finira quand même par la tuer dans la journée?
Non, on la fera le lendemain. Voilà, oui, si on peut.
Mais est-ce que, pardon, du coup, sur les impacts pour les bêtes, est-ce que ça a été vraiment évalué ou est-ce que c'est les humains qui se rassurent en se disant les bêtes, en fait, elles sont mieux
Alors, il y a une évaluation.
Est-ce qu'il y a des évaluations vraiment?
Ouais, il y a une évaluation qui est en cours, mais je pense qu'elle sera pas assez fine. Pour autant, il y avait déjà des travaux qui avaient été faits par l'INRA à Clermont-Ferrand dans les années 94-95 avec des documentations très, très précises là-dessus. Enfin, voilà, il y en a des bons pavés. Et les effets sont quand même notables, quoi. Et là, pour le coup, c'était pas de l'anthropomorphisme, c'est des scientifiques qui l'ont fait, effectivement.
Alors, c'est quoi les avantages, justement, et les effets bénéfiques pour les animaux? Alors, le temps de trajet en moins, ça on l'a compris, voilà, hein, c'est des centaines de kilomètres en moins.
Les bovins, par exemple, moi, puisque je travaille sur du bovin, ils se repèrent beaucoup à l'olfactif. Alors, on dit l'abattoir sent. C'est vrai qu'un abattoir, souvent, ça sent pas très, très bon parce qu'il y a du stockage de déchets, etc. C'est pas
ça sent le sang.
Mais c'est surtout qu'ils restent aussi dans leur environnement olfactif jusqu'au dernier moment avec leurs congénères dans le troupeau. Ils sont manipulés par les éleveurs qui n'ont absolument aucun intérêt à les maltraiter ou à les bousculer et autres. Il faut savoir que quand on voit des coups sur des animaux comme on a pu voir dans des vidéos chocs, en fait, la conséquence, ça va être un hématome, ça va être un bleu, ça va donc être une saisie. Ça veut donc dire que l'éleveur, il va perdre ça va être déduit de sa facture au final.
Oui, mais ça, c'est un avantage, entre guillemets, ou un inconvénient pour les éleveurs. Mais pour la bête en elle-même.
Ah ben la bête, elle se rend pas forcément.
Il y a moins de stress, clairement.
Oui, il y a clairement moins de stress. Elle se rend pas forcément compte du tout de ce qui se passe. Nous, on les voit rentrer, que ça soit sur une ferme. Enfin, on en a fait un certain nombre. On a fait une trentaine de fermes jusque là, et en fait, les animaux rentrent dedans naturellement. Voilà, c'est absolument sans stress, quoi.
Et sur la qualité de la viande, est-ce que ça joue aussi, alors vraiment?
Oui, c'est beaucoup plus tendre.
Ça aussi, on a des preuves scientifiques là-dessus ou pas?
Oui, alors là, c'était des objets des études aussi de l'INRA à Clermont-Ferrand avec Thierry Astor. Et oui, nous, les retours de nos clients, c'est ça, c'est effectivement, on avait deux engagements, on voulait le faire pour le bien-être animal et pour les éleveurs, et d'avoir aussi une meilleure viande au final, et c'est le retour que nous font tous nos clients.
Et c'est ce que demandent les consommateurs aussi, hein. Dans cette proximité, il y a aussi pour eux le fait de pouvoir manger de la viande qui aurait un goût différent.
Hein. En tout cas, elle est plus tendre, ça c'est net. Ouais.
Thomas Leroux, vous avez un petit texte rapide, mais sur la façon de mettre à mort les animaux au 19e,
oui.
C'est ça?
Bah, avant les abattoirs publics, j'étais frappé par finalement ces quelques ressemblances avec l'abattoir mobile par rapport aux abattoirs publics ensuite ou aux abattoirs industriels, parce que la mise à mort se fait de façon assez similaire à un assommage, et puis ensuite on décortique l'animal de façon très très rapidement. Les deux différences peut-être, c'est qu'il n'y a pas de service vétérinaire, l'inspection elle est faite par les bouchers eux-mêmes, et donc ça se base sur la confiance en fait. Puis il n'y a pas de chaîne du froid, ce qui fait que une fois la bête abattue, elle est dépecée et la viande est vendue tout de suite en fait, mais vraiment très très fraîche, puisque il n'y a pas la possibilité de... Alors en 1782, l'encyclopédie méthodique qui
la 18e, alors
18e, qui prolonge l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, hein, décrit l'abattage de cette façon, et on est frappé par la rapidité aussi, par la dextérité des bouchers, hein. Pour tuer un bœuf, on met autour des cornes de l'animal un fort cordage ou trait avec un nœud coulant. On passe ce trait à travers un anneau de fer scellé dans le milieu de la tuerie, au mur. On force le bœuf de baisser la tête près de l'anneau. Alors un garçon boucher, armé d'un merlin ou d'un marteau à manches longues, le frappe entre les cornes et l'assomme, tandis qu'un autre garçon guette le moment de pousser le bœuf et de le renverser sur le côté. On ouvre ensuite la gorge du bœuf, on le fait saigner, on fait une fente à la peau du ventre par laquelle on introduit la tuyère d'un soufflet pour en détacher la peau. On enlève l'animal par le moyen d'une poulie, on le vide, on l'habille, c'est-à-dire qu'on l'écorche. On laisse égoutter le sang, on coupe les extrémités, on prend une hache pour fendre le bœuf par moitié et par quartier. Et ensuite, la viande, elle est vendue.
Et ça dit...
les bouchers, avant de faire ça, ils doivent avoir une formation de 11 années.
Ah oui,
c'est-à-dire que c'est vraiment un métier qui nécessite une dextérité impressionnante, en fait.
Camille.
Oui, alors il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui voudraient savoir, Émilie Janin, comme Marie ou Justine, qui elle est vétérinaire et femme d'éleveur, comment se passe l'inspection antémortem et post-mortem par les services vétérinaires dans les abattoirs mobiles?
Alors en fait, on transmet un planning, comme je disais tout à l'heure, aux autorités sanitaires qui organisent du coup les contrôles tout le temps, nous. Chaque journée, il y a une inspectrice vétérinaire qui est avec nous tout le temps. Depuis mi-février, les vétérinaires sanitaires dont on dépend, donc la DDPP de Côte d'Or, a mis en place une inspection antérieure qui a lieu sur la ferme par le vétérinaire sanitaire de l'éleveur. Donc ça, il doit le faire dans les deux jours qui précèdent notre passage. Et puis ensuite, donc l'inspectrice vétérinaire de la DDPP qui est là avec nous dès qu'on travaille, dès qu'on commence à travailler jusqu'à la dernière minute, va inspecter notre façon de faire pendant toute la durée du process d'abattage. Et c'est elle qui va inspecter les carcasses et faire ce qu'on appelle donc l'inspection post-mortem et apposer l'estampille qui va déclarer que la carcasse est consommable.
Il y a eu des rumeurs qui avaient circulé autour de la contamination justement dans votre abattoir mobile. C'était une rumeur dont vous avez trouvé la source ou pas?
Ah ouais.
C'était qui alors?
Ah, les industriels, oui.
Clairement?
Oui, clairement.
Pourtant,
oui.
Vous ne représentez pas une menace pour les abattoirs industriels, oui.
Ah non, absolument pas, non. Mais effectivement, je pense que c'était en septembre où on a déjà dit oh là là, il y a des contaminations à l'extérieur sur leur carcasse.
Et combien de bêtes, concrètement, avec votre abattoir mobile en ce moment?
Je pense qu'on doit être à 230, 240, là. Je me rappelle plus le numéro que j'ai lu tout
très
à l'heure.
Peu,
mais...
hein, par rapport,
oui, c'est pas grand chose. C'est vraiment petit.
Samir écrit: bravo madame pour cette réponse qui va dans le sens de la dignité animale. Guy Gurvan, qui est paysan bio, nous dit: je soutiens à fond l'abattage mobile pour les bovins. Moi-même éleveur, j'espère qu'un jour dans le Finistère, il y aura un abattoir mobile pour les vaches et les veaux. Mmh. Pas de transport, pas de stress pour les animaux. Et Jeanne demande, elle, s'il serait possible que cette méthode d'abattage à la ferme soit applicable notamment sur les volailles.
Ah, c'est déjà possible en fait. C'est pas la même réglementation pour les abattoirs de volailles, c'est une réglementation spécifique. Et il existe depuis longtemps en fait des tueries qu'on appelle des tueries ou des abattoirs, des établissements dérogataires qui avaient des souplesses et qui permettaient aux fermiers de pouvoir avoir un aménagement, un petit abattoir, une petite tuerie pour faire de l'abattage sur place de leurs volailles et les vendre sur le marché.
Pour l'instant, vous ne pratiquez qu'en Bourgogne, hein, c'est ça?
Oui.
Et c'est quoi votre perspective donc là dans les années qui viennent? C'est de vraiment d'en développer beaucoup plus,
hein? Oui. En tout cas, il y a une demande très très forte.
Elisabeth, par exemple, nos vétérinaires, elle est au pied du Larzac et elle dit: je suis très intéressée. Est-ce que je peux vous contacter, Émilie Janin, si je veux lancer un projet?
Ah oui, qu'elle m'appelle. Je dis qu'elle essaye. Oui.
Thomas Leroux, est-ce que l'abattoir et l'abattage peut devenir vraiment éthique? Est-ce que le terme en soi n'est pas totalement contradictoire dès lors qu'il y a mise à mort de l'animal?
Ça, c'est une grosse question, en fait.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
En fait, la première éthique, c'est de savoir, c'est la proximité avec l'animal. C'est-à-dire, si on délègue, en fait, la mise à mort et la consommation à des industriels qui vont nous éloigner, en fait, à la fois de la production et de la consommation. Donc, en fait, je pense que la première éthique, c'est de savoir d'où vient la bête et de rétablir, en fait, cette confiance, en fait, qui était liée à la proximité, qui a été une majeure de l'histoire, en fait. Oui. C'est seulement depuis quelques décennies, voire même quelques siècles, qu'il y a cette mise à distance, en fait, entre la production et la consommation. Il y a un élan, en tout cas, qui est pas forcément partagé, évidemment, mais un élan vers un retour de la confiance et un retour d'une consommation de proximité. Donc, il y a des choses qui bougent.
Donc, vous qui regardez plutôt dans le rétroviseur, parce que vous êtes historien, ça pourrait se développer des abattoirs mobiles et donc être des solutions qui se développent de plus en plus dans l'avenir?
Sur le papier, ce sont des solutions. Après, on voit bien qu'il y a des rapports de production et des rapports de force qui contrarient en fait ces alternatives, en fait, qui reprennent elles-mêmes des choses qui existaient par le passé. En fait, il y a des récurrences comme ça qui reviennent, mais on voit qu'il y a des rapports de force et des rapports de production qui rendent les choses très compliquées malgré tout.
Émilie Janin, la question de la consommation de la viande est centrale aujourd'hui dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez aussi une réflexion là-dessus? Le GIEC nous le dit, hein, les produits d'origine animale sont responsables de plus d'émissions de gaz à effet de serre que n'importe quel autre source de nourriture, 14% des émissions d'origine anthropique. Est-ce que vous avez un discours sur cette question aussi?
Ah oui, ça m'énerve assez d'entendre ce genre de truc parce que...
Qu'est-ce qui vous énerve?
Parce que c'est assez simpliste.
Parce que ça, c'est factuel, hein, c'est des chiffres scientifiques.
Oui, mais c'est assez simpliste parce qu'en fait, ça globalise trop les choses par rapport à certaines régions et par rapport à certaines réalités. Et concrètement, il y a des zones chez moi, ou dans le Larzac, par exemple, comme madame la vétérinaire tout à l'heure, où on aura beau vouloir cultiver des carottes et des salades, on n'y arrivera pas à cause de l'altitude, de la qualité de la terre, de la pédoclimatologie, on n'y arrivera pas. Et donc, on n'a rien inventé de mieux sur certaines zones que des herbivores.
Mais réduire la consommation, vous pourriez...
Ah oui, on peut, mais c'est surtout la mondialisation qui est atroce, en fait. Faut pas se mentir, quoi. Simplement, ça fait du mal à pas mal d'industriels, mais c'est la mondialisation qui est horrible.
Merci, en tout cas, à tous les deux. Vous pouvez commenter cette émission sur le répondeur de la Terre au Carré. On écoutera vos messages demain, 01 56 40 45 45. Merci d'être venu nous parler des abattoirs.